VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, c'est la paralysie dans les transports routiers en raison d'une grève des chauffeurs. Ces derniers sont en colère après des propos du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, félicitant les forces de l'ordre après le passage à tabac d'un chauffeur. Le gouvernement burkinabé a pris la mesure de la situation et joue la carte de l'apaisement au plus haut niveau. À l'issue d'une réunion avec le syndicat, le Premier ministre Paul Kabatieba a demandé de reprendre le travail en pointant du doigt l'importance des transporteurs routiers.
Vous savez que les chauffeurs routiers jouent aussi un rôle très important dans l'économie nationale. Cela est lié même à la géographie de notre pays. Et il est vital pour nous de pouvoir avoir un accès libre en tout temps au port qui nous environne. C'est le travail quotidien de ces travailleurs inlassables, courageux, qui permettent au Burkina Faso de s'approvisionner. Donc leur rôle est vital pour notre économie nationale. Je les ai reçus, je les ai écoutés. Je pense que vraiment, il faut qu'on aille de l'avant. Je voudrais lancer donc un appel solennel à la reprise du travail, à l'arrêt de ce mouvement qui ne fait que faire reculer le Burkina Faso.
Paul Kabatieba, Premier ministre du Burkina Faso. Au Tchad, cela fait un mois ce jeudi que l'ex-maire de Moundou et ancien candidat à la présidence, Laoké Nkorayo Médar, attend d'être présenté à un magistrat suite à son arrestation le 13 juillet. Il avait été appréhendé peu après sa destitution par des conseillers municipaux, l'accusant de mauvaise gestion. Prosper Mbaye Remtar, député de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, le parti de l'ex-maire de Moundou, dénonce un déni de justice.
Tantôt on dit que le procureur général est absent, tantôt il faut chercher des qualifications. Et donc, comme le dossier est vide, ceux qui l'ont arrêté tournent la ronde. Sinon, comment comprendre qu'on peut prendre quelqu'un sans être condamné, puis le détenir plus de 2 semaines, sans procès, sans être écouté. Donc, je crois que, comme la Gérée a annoncé, c'était une cabale orchestrée contre sa personne. Et il ne se retrouve pas, soit on le relâche, ou alors on engage une vraie procédure judiciaire, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait à son endroit. On est en train de comprendre que le gouvernement muselle l'appareil judiciaire et qu'on ne peut pas les accuser, mais ils n'ont pas les mains libres. Donc voilà, c'est ça le problème. Si la justice est vraiment indépendante, comme dans d'autres pays, je pense que l'affaire est déjà réglée.
Prosper Mbaye Remtar, député du parti Convention tchadienne pour la paix et le développement, joint à N'Djamena au Tchad. Et puis au Kenya, la tension persiste dans le pays alors que la population attend les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le président sortant Uhuru Kenyatta arrive en tête selon des résultats provisoires rejetés par l'opposant Raila Odinga, ce qui a donné lieu à des violences qui ont fait 4 morts, Jean-Roger Bion.
Au lendemain de l'élection, des échauffourées parfois violentes ont éclaté dans des fiefs de l'opposition, coutumiers de ce genre d'incidents en période électorale, plongeant dans l'anxiété une nation qui se souvient trop bien des violences ayant suivi la présidentielle de 2007 et qui avait fait 1100 morts et plus de 600 000 déplacés. La commission électorale, AIBC, a publié mercredi en soirée les résultats transmis électroniquement par près de 97% des bureaux de vote, créditant le président sortant Uhuru Kenyatta de 54,31% des suffrages contre 44,81% pour Raila Odinga sur un total de 14,7 millions de votes comptabilisés. Il s'agit d'une fraude d'une gravité monumentale. Il n'y a pas eu d'élection, a dénoncé Raila Odinga. Selon lui, des pirates informatiques ont manipulé le système de comptage des voix grâce au code d'accès d'un responsable informatique de la commission électorale assassiné il y a un peu plus d'une semaine. Des allégations démenties mercredi soir par l'AIBC. Monsieur Odinga, au même titre que de nombreux observateurs électoraux internationaux, a par ailleurs appelé les Kenyans au calme, mais il a aussi ajouté « Je ne contrôle pas le peuple ». Les résultats définitifs seront publiés après authentification des procès-verbaux des bureaux dont les scans ont été envoyés par voie électronique. Le processus pourrait prendre plusieurs jours. L'AIBC a cependant l'obligation légale de publier les résultats au plus tard, 7 jours après l'élection.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, création par cette jeune d'une coopérative de producteurs de poissons d'étang pour lutter contre le chômage et s'assurer des revenus réguliers. Ce projet de pisciculture fait des émules parmi les jeunes désœuvrés du pays, nous dit de Bujumbura notre correspondant Christophe Nkurunziza.
À une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Bujumbura, des jeunes, des vieux se disputent pour avoir la chance d'acheter un bon poisson. Des étangs ont été aménagés par une équipe de ces jeunes chômeurs sur la colline Kizina de la commune de Mbanda, en province de Bubanza, depuis plus de 3 ans. Dans ces étangs, ces jeunes ont créé une coopérative appelée Kopi Mukopo pour faire la culture de poissons. Cette pisciculture, au départ, était composée de 5 étangs. Aujourd'hui, l'association en possède 50. Ndaïra Guidje est le président de cette association de jeunes qui s'agrandit au jour le jour. Il nous donne les sets de poisons prisés par la population.
Il y a plusieurs sortes de poissons dans ces étangs, des tilapia nilotiques ou ingege, un kirundi ou makoke. D'autres sont appelés kambale et d'autres encore njombo en swahili kirundi. Nous avons commencé avec 5 étangs aujourd'hui, nous en avons 50. Avant, on récoltait 200 kilos par an, mais nous avons aujourd'hui plus de 6 tonnes annuellement. Et le bénéfice se chiffre à plus de 6 millions de francs burundais que l'on partage entre les membres de notre coopérative. Mais le capital continue d'augmenter grâce à ces étangs.
Cette coopérative Kopi Mukopo gagne chaque année au moins 36 millions de francs burundais. Mais comment cette idée a-t-elle mûri au départ, Syriac Ndaïra Guidje?
Quand on a terminé nos études, on n'a pas trouvé de travail et parmi nous, il y a ceux qui ont étudié. On avait de la force physique, on s'est réunis et nous avons créé notre coopérative. Il y a des fonctionnaires qui commencent à venir nous rejoindre. Nous avons constaté que la production des poissons dans le lac Tanganyika diminuait terriblement et que la population d'ici, chez nous, aimait le poisson. Nous avons alors démarré notre projet. Nous vendons 1 kilo de poisson à 5 000 francs, alors que le poisson Nagala du lac Tanganyika coûte 28 000. La population ici est vraiment contente de cette coopérative car elle reçoit le poisson à bas prix.
Ce matin-là, sur cette colline, la population était en extase devant les étangs. Tout le monde voulait acheter du poisson pour aller faire la fête à la maison avec la pâte de manioc. Cette femme, avec un autre homme, témoigne.
Le prix du poisson du lac Tanganyika est vraiment cher. Ici, le poisson est délicieux et coûte moins cher. Les enfants m'attendent impatiemment car ils vont manger aussitôt que j'arrive à la maison. Si les jeunes Burundais pouvaient faire de tels projets, ils auraient beaucoup d'argent et le banditisme pourrait diminuer.
On ne trouve pas souvent à Bujumbura ici le poisson appelé Isombi. À Bujumbura, on y va seulement pour acheter le poisson Mukeke et du poisson Ndagala. C'est un très bon projet qui aide beaucoup la population à trouver de la nourriture. Le projet aide les gens à travailler, mes enfants attendent, parce qu'ils savent qu'ils vont dîner à midi.
Aujourd'hui, 3 étudiants bénéficient d'une bourse payée par la coopérative qui veut agrandir les étangs à 200 dans un futur proche. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Bras de fer entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le régime nord-coréen a confirmé ce jeudi vouloir tirer 4 missiles en direction de l'île américaine de Guam dans le Pacifique. Pyongyang déclare que seule la force fonctionne avec le président américain Donald Trump. Pour sa part, après avoir promis mardi le feu et la colère au régime de Kim Jong-un, le président Donald Trump s'est montré mercredi encore plus menaçant, affirmant sur Twitter que l'arsenal nucléaire américain était plus fort et plus puissant que jamais. De son côté, le secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, a exhorté Pyongyang à arrêter sa course aux armes nucléaires. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Jim Mattis a demandé au régime nord-coréen d'arrêter de fomenter des actions qui mèneraient à sa fin et à la destruction de son peuple. Dans un communiqué, le chef du Pentagone a indiqué que la République populaire démocratique de Corée doit arrêter de s'isoler et arrêter sa course aux armes nucléaires, soulignant au passage que la puissance militaire américaine était infiniment supérieure à celle de Pyongyang. Les actions du régime du RPDC seront à chaque fois largement surpassées par les nôtres et ils perdraient toute course aux armements ou conflits qu'ils déclencheraient, a insisté l'ancien général des Marines. Une escalade verbale en droite ligne des propos du président américain Donald Trump qui, la veille, avait promis à la Corée du Nord le feu et la fureur si les menaces contre les États-Unis continuaient. De son côté, Pyongyang a menacé de lancer des missiles sur le territoire américain de Guam. Le week-end dernier, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une nouvelle série de sanctions économiques contre la Corée du Nord.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. No time.